Bienvenue à tous pour notre nouveau podcast Super Physique. Je suis aujourd'hui avec le beau, le musclé, le célibataire Rudy Koya.
Et je suis avec Julien Vénesson, auteur du livre La Nutrition de la Force, qui est encore passé à la télé cette semaine. Julien, dans quelle émission es-tu passé cette semaine?
J'ai oublié le nom.
J'ai oublié, mais tu avais une très belle chemise ce coup-ci.
Ouais, non, j'étais pas au top, mais bon. Bah, je sais pas, c'était sur France 2, je crois.
C'était dans quoi comme... Ah, c'était pas On n'est pas accouché?
Je présentais un nouveau livre.
Donc samedi soir, j'allume la télé, et sur qui je tombe? Julien Vénesson. Oui, avec une chemise de malade, colorée avec des fleurs. Il m'a même pas prévenu.
Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents podcasts, on parle de William Carminola, qui est ma réincarnation dans le milieu de la mode. Alors, on va faire un petit peu d'actu, si tu veux bien, Rudy. Parle-nous un petit peu de la team SP à la Coupe de l'UE.
Donc la Coupe de l'UE, c'est la Coupe de l'Union Européenne. Donc c'est une compétition à laquelle Brice et Fanny avaient participé l'année dernière au mois de septembre au Luxembourg. Donc j'avais fait un reportage sur le site. Et donc là, on vient d'apprendre les possibles sélectionnés pour le mois de septembre. Donc ce sera le 13 et 14 septembre à Blanquefort, donc en France. Et donc pas mal de personnes de la team Superpower sont qualifiées a priori. Donc il y aura encore Brice, il y aura encore Fanny, il y aura Gilles et il y aura Romain. Donc là, c'est vraiment assez cool, quoi. Je trouve ça. Comme ça fait plaisir que tout le monde y soit. Donc comme ça, je vais pouvoir faire un super reportage, encore mieux que d'habitude, en espérant faire. Ce coup-ci, j'aimerais bien essayer de faire un petit reportage vidéo directement avec des interviews et tout, un peu comme ils avaient fait pour l'équipe de France, les yeux dans les bleus, avec l'équipe de foot. J'aimerais bien faire un truc un peu du style.
Ouais, ce serait sympa.
Dans les yeux de la team Superpower, mais bon, allez, je vais essayer de faire ça là, et en même temps faire des petites vidéos régulières là pour avec chacun des quatre personnes de la team pour mettre leur préparation à jour sur le site on the road for the Coupe of UE.
D'accord.
Donc je vais essayer de faire ça. Donc vite fait, j'ai oublié de dire aussi, il y a eu les championnats du monde de développé couché. Donc il y a 2-3 jours, donc il y a eu de belles performances des Français, dont une championne du monde junior. Donc c'est Audrey Mingot qui a fait 97,5 au développé couché en moins de 52. Donc elle gagne une poids de corps, donc championne du monde de couché, chapeau. Et donc il y a Adrien Poinçon qui a fini 3e avec 245 au couché en moins de 74. Donc autant dire une barre énorme, et la catégorie s'est jouée je crois à 275 kilos, donc assez incroyable comme performance. Ouais. Et donc il y avait deux autres Français, donc il y a Cédric Merle qui a tiré en junior en moins de 74, qui a fait 190, qui a fini 4e, et je crois que c'est en moins de 66, il y a Virgilio qui a fini 4e, pareil, avec 190. Donc bonne performance des Français, ça avait l'air bien organisé, et on pouvait encore suivre ça sur le site Goodlifts en direct.
Ok.
Donc voilà.
Alors, deuxième actu, Rudy, est-ce que tu as vu sur ma page Facebook, j'ai posé la question, est-ce que Akuma doit avoir un t-shirt super petit? Tu as vu la réponse des internautes?
J'ai vu au début, mais j'ai arrêté de suivre.
Donc, 99% de gens qui veulent un t-shirt pour Akuma, j'ai vu, il y avait presque tout le monde a mis oui, sauf deux personnes ont mis non, quoi.
Moi, j'ai mis non.
Donc, 3 personnes, alors.
Bah, je peux être dans les deux. Je peux être dans les deux.
Ouais, bon, là, il faut absolument que tu fasses un t-shirt. Là, il n'y a pas de...
Ouais, bah, il faut que ça soit un t-shirt. Un prochain t-shirt, t'en veux à quelle couleur?
Pour Akuma?
Voilà.
Bah, il faut, je sais pas, quelque chose qui ressorte bien avec son teint. Un noir, par exemple, avec du rouge ou du bleu.
Un t-shirt de la team, en plus.
Le classique bleu. T'avais commencé, t'en avais fait des bleus?
Ouais.
Ah bah, ça, c'est bien pour Akuma, sur son petit teint roux.
Et le mec est malin, mais on a même pas noté ça en actualité et il nous le ressort.
Alors ok, bah merci Rudy hein, pour le t-shirt, on te remercie à l'avance.
Si Akuma a son t-shirt, on veut la photo avec.
Bah évidemment.
On veut un double biceps.
Même à la salle de muscu, bah évidemment, ça tombe sous le sens. Troisième actu, tu m'as parlé tout à l'heure des bracelets Up. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
J'ai vu ça donc en promenant hier à la Fnac, j'ai vu les bracelets Up. Donc je me suis dit qu'est-ce que c'est? Et en fait c'est des bracelets qui mesurent la dépense calorique et qui servent en fait à enregistrer en fait nos pas, nos dépenses, nos heures de sommeil profond, de sommeil léger, à nous réveiller. Donc j'ai un peu creusé le sujet pour voir si ça valait le coup ou pas parce que ça coûte quand même 140 €. Pour un bracelet et donc en même temps il y a une application qui est fournie pour les smartphones donc aussi bien sur Android que sur l'Apple Store pour pouvoir suivre tout ça Donc j'ai épluché pas mal de sites internet pour voir ce que ça valait. Donc a priori pour le sommeil c'est vachement bien. Ça aide à réveiller exactement au bon moment. Donc pour pas se réveiller en étant fatigué ou se réveiller au mauvais moment et après on est crevé toute la journée. Mm-hmm. Ça c'est pas mal. Pour les dépenses caloriques c'est bien si on fait pas de sport. Si on fait du sport en fait ça fausse un peu les dépenses caloriques comptabilisées sur la journée. Parce que c'est pas adapté à tous les sports en fait.
Enfin, moi, ce que je me demande surtout, c'est à quoi est-ce que ça sert de mesurer sa dépense calorique avec un bracelet, qu'on soit sportif ou pas, je vois pas l'intérêt.
Ça te permet de savoir combien tu dois manger après, c'est plus simple.
Non, c'est pas plus simple. Tu manges d'une certaine manière, tu vois bien si ton poids il monte ou il descend ou s'il est stable, t'as besoin
de... Ouais, mais c'est un peu plus précis. Mais imaginons qu'aujourd'hui, tu te dis voilà, et en même temps, t'as dans ce bracelet, donc avec l'application fournie, tu peux noter ce que tu manges, ça calcule les calories. Et donc, en même temps, tu peux faire ton truc, exactement. Donc, c'est dans cette idée-là que c'est pas mal. Imaginons, t'as dépensé 2200 calories aujourd'hui, tu calcules ta diète, tu dis, bon, bah là, il me manque 200 calories, paf, tu les manges.
Ah, ouais.
Tu te dis, c'est bon. Tu te dis, bon, bah, j'ai dépensé 2200 calories, je veux maigrir, bon, bah, je mange 1700, par exemple. Et paf, c'est bon, j'ai pas mangé plus, tout va bien.
Ouais.
Mais par contre, ils disent que, ouais, pour le sport en général, en fait, c'est pas adapté aux activités sportives qui ne sont pas, fait en marchant ou en courant, vu que ça se base sur le nombre de pas.
Ouais, du coup, ton explication précédente où tu nous dis oui, le jour où tu dépenses plus de calories.
Oui, mais ça
tient pas la route, quoi.
Parce que c'est le début. C'est parce que c'est. Ah, méchant, c'est le début des bracelets comme ça. Et moi, je trouve que c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Je trouve que si ça se développe bien, ça va vraiment être super quand même.
Ah bon?
Bah, de pouvoir contrôler encore plus. Ouais. Non, moi, encore plus de repères pour tout gérer.
Je partage pas ton avis, par contre, je suis d'accord pour en ce qui concerne le sommeil, si ça marche bien, ça c'est vraiment bien.
Bah ça, oui, ça, tous les sites disent que ça marche bien, tous ceux qui ont essayé là.
Si ça permet de bien se réveiller le matin, hein, puisqu'on a un article d'ailleurs sur le site hein, qui s'appelle Les secrets diététiques de la force, dans lequel j'explique l'architecture du sommeil. On a des phases de sommeil très précises qui se succèdent les unes aux autres. Si on se réveille au bon moment, ça permet de se réveiller en étant en forme. De toute façon, ça, tout le monde l'a vérifié un jour ou l'autre. Il y a des jours où on a dormi un nombre d'heures suffisant, mais on se réveille et on est mou. Et d'autres jours où on se réveille et on est en forme. Ça dépend à quel moment on se réveille dans le cycle du sommeil. Donc ça, c'est à tester, ouais, effectivement. S'il y a des gens qui ont bracelet, qui veulent nous faire des retours, ça peut être...
Vraiment, tous les sites là-dessus disaient que c'était pas mal. C'est juste pour les dépenses caloriques, ça disait pas. Mais bon, ça a l'air d'être l'avenir un peu du truc, donc c'est pas...
Ok.
C'est pas mal. Donc, Julien, t'as une actualité à nous dire aussi.
Oui. Je vais lancer mon magazine, le magazine dont je m'occupe, dont je suis rédacteur en chef. Donc, ça s'appelle Alternative Bien-être. Ce sera uniquement diffusé sur Internet et sur abonnement. Donc, c'est un magazine qui traite de la santé, de la nutrition, du bien-être en général. Et puis surtout par des méthodes de santé naturelle en fait. Hein. Donc dans l'esprit de tout ce qu'on raconte, de tout ce qu'on fait. Donc j'en parlerai un petit peu plus quand ça sortira effectivement.
Combien coûte l'abonnement, Julien ?
Alors combien coûte l'abonnement ? Alors l'abonnement c'est un mensuel qui coûte donc 59 € à l'année a priori.
Donc ça fait 5 euros le magazine, donc ça va, ça reste très honnête.
À peu près, ouais, et puis probablement qu'il y aura une offre promotionnelle pour démarrer, donc ce sera encore moins cher. Donc de toute façon, oui, ce sera pas très cher, et puis ce sera de la qualité, ça c'est garanti.
Garanti par le rédacteur en chef.
Ouais, tout à fait. Et puis avec l'équipe qui travaille avec moi, parce que je suis pas tout seul. Donc c'est surtout l'équipe qui me permet de dire que je sais que ce sera bien. Donc c'est pour ceux qui recherchent une information indépendante et fiable en matière de santé, de nutrition, que vous soyez en bonne santé pour rester en bonne santé ou si vous avez des problèmes de santé pour trouver des alternatives naturelles. Voilà.
Bon bah on a hâte. Hein.
Bah
ouais, hâte de voir ce que donne Julien Vénesson en rédacteur en chef.
Alors on va passer aux questions, Rudy.
Oui, Julien.
On a une première question qui est pour moi. Tiens, je vois. Pourquoi le citron est basifiant? C'est une question qu'on nous a posée dans un podcast précédent et à cause de ton logiciel pourri, il y a eu une coupure de son. Donc, le citron, pour ceux qui ont remarqué, a un goût acide, tout comme un petit peu la tomate et puis les agrumes en général, le pamplemousse, l'orange, etc. La question concerne l'équilibre acido-basique, puisque pour rétablir un bon équilibre acido-basique, on cherche à apporter des aliments basifiants, et en général, on conseille souvent d'ailleurs le citron. Alors en fait, le citron contient de l'acide citrique qui lui donne un goût acide, mais qui est ensuite dégradé dans l'organisme en gaz carbonique, qui est ensuite qui ressort par les voies respiratoires, et ensuite il reste uniquement des sels alcalins. Donc le citron et tous les agrumes sont peut-être acides au goût, mais ils sont néanmoins basifiants. De manière plus générale, faut être simple, tous les fruits et légumes, sans aucune exception, sont basifiants. Donc manger des fruits et légumes, ce sera bon pour votre équilibre acido-basique. Ne vous préoccupez pas du goût dans la bouche. De même, les protéines alimentaires, on sait qu'elles sont acidifiantes, et quand vous mangez du poulet ou du poisson, en bouche, ça n'est pas du tout acide. Donc voilà, c'est deux choses distinctes. C'est le métabolisme qui produit des acides ou des bases. Donc voilà, j'ai répondu pour le citron. Ça te semble compréhensible, mon cher Rudy ?
Ça me semble compréhensible, William.
Bon. Alors, une question pour toi, entraînement. Comment progresser efficacement au niveau poids et répétition sans aller à l'échec ? Si je ne force pas, vais-je rester au même nombre de répétitions ?
Donc, premier point, déjà, se référer à l'article que j'avais écrit il y a un petit moment. Faut-il aller à l'échec à chaque série pour progresser ? Donc, est sur le site Superphysique. Donc, quand on conseille en fait de s'entraîner suivant un cycle, c'est-à-dire par exemple de démarrer, je donne un exemple de cycle, voilà qu'on avait fait sur le développé couché, donc 3 grammes prise de masse sur 3 mois. Donc, le début d'un cycle est normalement facile, mais petit à petit le cycle va se corser et forcément on va commencer à forcer. Mais le but en lui-même n'est pas de forcer, c'est de progresser. Et forcer est un moyen de permettre donc de faire plus de répétitions ou de mettre plus de poids. Donc l'échec devient un peu inévitable, si on peut dire, mais en fait c'est pas un échec, c'est une réussite, vu qu'on va réussir à chaque fois. Alors après, c'est possible de coincer au cours du cycle, donc par exemple, je sais plus l'exemple qui a été donné, mais j'ai plus ça en tête, mais je crois que la personne bloquait à 16 répétitions ou un truc du genre, dans son cycle. Donc je bloque à 16 répétitions, j'arrive pas à faire 17, donc oui, là c'est un échec. Et il y a de fortes chances que j'ai démarré mon cycle beaucoup trop haut.
Ouais.
Donc il y a deux choix. Soit j'ai démarré trop haut, donc là, il faut repasser au point inférieur. Ou sinon, faut utiliser le rest pause. Donc je rappelle le rest pause. Pareil, j'ai fait un article, plusieurs articles là-dessus. Et plusieurs newsletters pour ceux qui sont abonnés. Donc le rest pause consiste à attendre, mon rest pause, ma version, à attendre dans une partie du mouvement où il y a beaucoup moins de tension pour se reposer un peu à moitié et pouvoir repartir dès que possible pour continuer sa série et la finir. Donc on peut exposer autant de fois que nécessaire. Donc il n'y a pas de temps limite, il n'y a pas de... On peut faire ses reps une par une s'il faut, quoi. Il n'y a pas de souci. Le but étant d'arriver à l'objectif. Mais donc, évidemment, il y a un moment, de toute façon, où il va falloir forcer. C'est comme s'entraîner... Je vais prendre un exemple. Vous vous entraînez pour faire un maxi au développé couché, vous faites votre cycle, vous montez. Le jour du maxi, il va vous forcer. Bon, bah là, c'est pareil. Julien, t'es en train de manger en même temps, Sagouin.
Bah, t'as vu l'heure?
Oh, le salaud. C'est sur le clavier, on entend l'assiette.
Mais je t'écoute, hein, t'as pas fini.
C'est ça. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, voilà. Donc, forcément, à un moment, on va forcer pour progresser. Et c'est normal. C'est juste qu'il ne faut pas forcer tout le temps. Et si on force tout le temps, on finit par se cramer nerveusement. Et là, vraiment, ça devient très très dur de progresser. Et là, on perd des semaines d'entraînement. Il faut repartir beaucoup plus facile pour pouvoir se refaire une marge et récupérer nerveusement.
D'accord.
Donc voilà, donc, conclusion. Normalement, si votre cycle est bien construit, vous n'allez pas forcer à fond au début. Mais à la fin du cycle, de toute façon, vous allez devoir vous dépouiller et forcer comme un malade. Bah ouais, il n'y a que comme ça que ça marche, hein. On peut pas progresser sans forcer au bout d'un moment.
Ouais.
Mais après, c'est ce que je disais ce matin, donc pour faire petit aparté, le conseil du jour, n'allez pas ne tenter une répétition que si vous êtes sûr de la passer. Jamais de rep forcé ou tout comme ça. Alors là, c'est bon juste pour vous bousiller votre cycle et puis bousiller votre séance. Hein. Là, c'est fini.
Ouais.
C'est fini d'avance.
Ok. Bon. Alors, attends, parce que je suis obligé de finir d'avaler ma bouchée pour pouvoir continuer à lire les questions. Alors, diététique, je mange exclusivement des pâtes complètes et du riz complet. Est-ce qu'à plus ou moins long terme, il y a un risque de développer une pathologie intestinale ou autre? Alors, ça tombe bien, c'est le sujet de mon livre qui sort le 20 juin, normalement. Si, par exemple, on mange des pâtes complètes régulièrement, ou des pâtes tout court, hein, ou beaucoup de pain, ou voilà, ce genre d'aliments courants, on va dire, et qu'on a une sensibilité génétique pour être intolérant au gluten, bah, a priori, si on continue à s'exposer au gluten comme ça, il y a de grandes chances qu'à un moment ou à un autre, on finisse par déclencher la maladie cœliaque, donc on appelle, c'est l'autre nom de l'intolérance au gluten, ou alors même d'une autre maladie associée à la maladie cœliaque, qui sont des maladies auto-immunes, et qu'on sait qu'elles ont un fort lien avec cette maladie. Donc, par exemple, diabète de type 1, la spondylarthrite ankylosante, ou d'autres choses comme ça. Alors, c'est un domaine qui est très controversé. J'ai discuté avec des chercheurs, et pour l'instant... On n'a pas pu mettre en évidence ce mécanisme-là dans la vraie vie, on va dire, mais c'est tellement plausible et logique que effectivement, voilà. Donc oui, il y a probablement un risque à manger du gluten constamment. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si on est oui ou non susceptible de développer ces maladies. Donc par conséquent, on peut pas vraiment répondre à cette question. Pour certaines personnes, ça posera probablement aucun problème. Pour d'autres, ça posera probablement un peu de problème. Donc moi, ce que je conseille, c'est la politique de la précaution, d'autant que les blés qu'on consomme maintenant, c'est des blés qui ont été génétiquement modifiés. Donc moi, je conseille de limiter de manière générale la consommation de ces produits. Donc le riz, par contre, ne possède pas ce problème. Donc essayez de limiter un peu la consommation de produits à base de blé, sans forcément les supprimer définitivement si on n'est pas sensible. Donc voilà.
Viendrais-tu de résumer la conclusion de ton livre qui sort le 20 juin?
Non. Pas du tout. Enfin, il y a une partie de ça, mais bon, le bouquin fait quand même 200 pages. Hein. Donc, ça se résume pas en 5 minutes. Mais oui. Non, dans le bouquin, j'explique surtout... qu'est-ce qui s'est passé aussi qu'est-ce que tu manges en fait? Parce que Rudy, tu le sais pas encore, mais ce que tu manges, c'est une catastrophe atomique.
Eh ben, je mange du riz semi-complet ou basmati.
Ah bon, je croyais que tu mangeais pas mal de pâtes, toi.
Non, ça fait un moment que j'en ai pas mangé. J'en mange, je sais pas, une fois par semaine peut-être des pâtes.
Ah oui. D'accord.
Je suis tes conseils, Julien Vénesson.
Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire. On peut pas répondre avec certitude à cette question. On peut suivre mon point de vue, qui est celui de la précaution. Voilà, tout ce qu'on peut dire.
Merci, ensuite, merci William.
Merci Rudy. Question d'entraînement. Est-ce que plus on en fait, mieux c'est dans le cadre d'une prise de muscle, si on a que ça à faire? Bon, et concrètement, ça veut dire...
Est-ce que plus on en fait, mieux c'est?
Est-ce que si je m'entraîne plus souvent, par exemple 4 ou 5 ou 6 jours par semaine parce que je suis au chômage et que j'ai rien d'autre à faire de mes journées, est-ce que ce sera mieux pour la progression?
J'aime bien comment tu réduis le tout.
Non, mais malheureusement, le chômage en ce moment touche beaucoup de monde.
Donc, putain,
ça peut être ça, ça peut être autre chose.
Mais ouais, bon,
si tu es temps libre...
Putain, il m'a fait rire, le salaud. Donc, donc en fait, j'ai réduit la question, parce que la question était sur au moins une dizaine de lignes. C'était quelqu'un qui se demandait pourquoi on conseillait régulièrement de faire 3 séries par exercice, et puis de pas faire trop de séries par muscle, et puis qu'on mettait souvent en avant de faire 3-4 entraînements par semaine, et pas plus. Et est-ce que ça le concernait, même si lui avait plus de temps libre, et est-ce que c'était pas mieux d'en faire plus pour prendre du muscle? Donc, j'y réponds en détail dans mon premier e-book, en vente sur mon site d'ailleurs. Donc j'explique la bonne moyenne tirée de toute mon expérience de coach là. Donc voilà. Donc non, plus j'en fais, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux du tout. Après, à chacun de trouver sa bonne fréquence. Moi, j'avais j'ai trouvé, depuis maintenant que ça fait quoi, ça fait faire 7 ou 8 ans maintenant que j'entraîne des gens, que la bonne fréquence était de 3 à 4 jours par semaine d'entraînement. Très peu progresse avec 5 jours par semaine. Avec 6 jours, c'est encore plus rare. Faut pouvoir récupérer, donc avoir le temps, récupérer.
Est-ce que tu ne serais pas en train de nous donner une partie de la conclusion de ton e-book, Rudy ?
Non, c'est, ça, c'est qu'un chapitre.
Ah, une conclusion d'un chapitre, alors.
Ouais, mais c'est pas grave, ça. Moi, je suis sympa, moi. Donc, non, c'était la bonne moyenne. Donc, en fait, après, plus on s'entraîne, plus avoir les facultés de récupération, donc c'est-à-dire récupérer articulairement, nerveusement, musculairement, pouvoir faire des siestes, parce qu'on s'entraîne 6 fois par semaine. En plus, là, la personne parlait de s'entraîner 1h30 ou 2h à chaque fois. Donc, pareil, pouvoir faire des siestes pour récupérer. Donc, moi, ce que je conseille à ceux qui ont beaucoup de temps, c'est de rester sur un rythme de 3 à 4 fois par semaine. Donc, comme les exemples de programmes sur le site, ou les programmes que je donne dans mes e-books. Donc, s'ils sont les programmes optimaux pour progresser. Et si vous avez du temps, donc vous étirez, en profitez pour vous masser, pour faire des choses qui vont vous aider à progresser, mais qui ne vont pas vous taxer la récupération, mais au contraire, aider votre récupération. Mais non, plus on en fait... Par exemple, si on fait 20 séries de pecs pendant sa séance, non, c'est pas mieux. C'est Arthur Jones qui disait, donc l'inventeur du HIIT, je crois qu'on a un article sur le site sur le HIIT, qui disait... tout ce qui ne sert pas à progresser entrave en gros la progression. Donc, ouais. Par exemple, je fais 3 séries par exercice, j'en fais une 4e, mais je ne sens pas qu'elle m'apporte quelque chose. Elle ne va pas m'aider à progresser, elle ne sert à rien et va plutôt entraver ma progression que la favoriser. Donc, c'est pareil pour le nombre d'exercices ou pour le nombre de répétitions. Si au bout de 3 exercices, je suis gonflé comme un ballon, bon, bah, j'ai pas de raison d'en faire un 4e. Si ce n'est pour faire du vent et puis récupérer moins vite et puis me fatiguer encore plus. Rappelez-vous qu'à la musculation, dans un but de prise de muscle, ce n'est pas du cardio. On est là pour progresser et pas pour brasser du vent ou juste se dépenser pour se dépenser.
Bon, en fait, je pense qu'il faut simplement préciser, c'est que récupérer une séance de muscu, c'est pas uniquement récupérer au niveau de l'énergie, c'est récupérer aussi au niveau du système nerveux. Et ça, c'est beaucoup plus difficile quand on s'entraîne 5 à 6 fois par semaine, même si on mange bien. Voilà.
J'ai déjà fait, allez, petite anecdote, je me suis déjà entraîné 9 fois par semaine.
9 fois?
Ouais, j'ai fait quand j'avais préparé ma compète en 2007, là, de body. Je m'entraînais donc tous les jours, et il y a 2 jours, j'entraînais 2 fois par jour. Genre, par exemple, le samedi, je me souviens, je faisais pec le matin, et j'en ai après-midi faire le dos.
Oh la vache.
Et le dimanche, je refaisais les bras que j'avais déjà fait dans la semaine.
Et alors?
J'ai un autre truc. Ah bah j'étais mort, hein. J'étais bon à rien. Ah, j'étais bon à m'entraîner quoi. Je m'entraînais, je dormais, je mangeais. Hein. Comme ça. Là, tu peux rien faire. Donc, tu sors le soir, t'es mort.
Il y en a aussi qui essayent de, qui font cette technique là de s'entraîner presque tous les jours en faisant du split, mais du très gros split quoi. C'est-à-dire un jour c'est le deltoïde latéral, un jour c'est le biceps, un jour c'est le triceps, un jour c'est le bas du dos, un jour c'est le haut du dos, enfin en gros
c'est... Ouais, mais c'est des trucs qui marchent pas trop. Là, je suis en train de lire d'ailleurs, ça fait une autre aparté, l'e-book du Westside, donc un truc sur le power, donc je vais faire un article après. Et le mec, justement, dit que tous ces athlètes s'entraînent entre 13 et 14 fois par semaine.
Ah ouais?
Parce qu'en fait, il fait un peu, il se fixe beaucoup sur les Bulgares, et donc sur tout ce que faisaient les Soviétiques, à savoir que les séances sont courtes, et donc, comme elles sont courtes, on récupère beaucoup plus vite et donc on peut en faire. Donc ouais, avec... j'ai envie de dire que oui, c'est le cas. Vu les charges qu'ils mettent, je pense que ce sont les produits qui aident
à... C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est aussi, il fournit aussi le protocole produit pour
suivre... Non, il ne fournit pas dans le livre, mais je pense qu'il y a un bon protocole produit pour pouvoir tenir. Pouvoir faire entre 2 et 3 séances par jour, je pense que oui.
Ouais.
Même okay. Si toutes les séances sont pas lourdes, ouais, c'est...
Ok, bon bah je pense que ça.
Donc voilà, la fréquence idéale est de 3 à 4 fois par semaine. Plus étirez-vous, faites des étirements, massez-vous,
caressez-vous.
Ça c'est le conseil de Julien. Caressez votre chat.
Voilà.
Faites-lui un câlin, regardez-le au réveil le matin. Sur le lit.
Alors maintenant une question diététique pour moi. Dans le guide des compléments alimentaires pour sportifs de Michael Gundil, que au passage on recommande à tout le monde, excellent livre, Il y a un non, mais il faut dire les choses quand même. Il y a un paragraphe sur la relation entre la testostérone, le taux de testostérone et la teneur en protéines de l'alimentation. Plusieurs études montrent que plus on mange de protéines et moins on mange de lipides, plus le taux de testostérone est faible. Pourrais-tu développer cette problématique et le compromis optimal de protéines et de lipides, même si déjà partiellement expliqué dans ton livre ? Jeune homme qui a posé la question, on peut pas répondre à la question en disant précisément il faut 15 grammes ou 20 grammes de lipides et 47 de protéines, parce que déjà ça dépend du gabarit de chacun. Ce qui est certain, qui est une grosse erreur en musculation, mais maintenant je pense beaucoup moins, parce que ce soit dans mon livre, le site Superphysique et puis même d'autres sites de musculation maintenant commence pour certaines choses à présenter un petit peu plus de qualité en matière d'information. Donc ça fait maintenant un moment qu'on ne conseille plus les régimes très pauvres en lipides, qui était une erreur majeure aussi bien pour la performance que pour la santé. Et effectivement, quand on a un régime alimentaire trop pauvre en lipides, ça a tendance à faire chuter le taux de cholestérol, et quand on a un régime trop riche en protéines, bah c'est pas bon non plus, et puis pas que pour le taux de testostérone d'ailleurs. Donc la règle la plus simple qu'il faut garder à l'esprit, c'est d'avoir toujours au moins 1 gramme, environ 1 gramme de lipides par kilo de poids corporel, pour éviter d'avoir une diminution des taux d'hormones endogènes, quoi. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est à peu près tout, hein. Il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Les lipides sont utilisés pour beaucoup de choses dans l'organisme, y compris pour fabriquer les hormones. Donc voilà, Rudy, tu voulais préciser la question ou...
Non, bah, ce que je t'avais dit avant le podcast, de toute façon c'était assez simple, les recommandations habituelles, de toute façon c'est toujours pareil, ce sont les excès qui font que les choses ne sont pas très très bonnes, donc trop de protéines c'est pas bon, trop de lipides c'est pas bon, il y a un juste milieu à avoir pour fonctionner du mieux possible.
Ouais.
Donc... Non, ça répondait bien à la question. Donc j'en profite pour demander des nouvelles d'Akuma, sinon.
Ben, il va bien, Akuma va bien, il est toujours mignon. Il est très impatient de recevoir son t-shirt. Mais ça va, non,
c'est rien bon, de... Sur la photo de l'avatar que tu as mis sur Skype, il n'a pas de pattes.
Il n'a pas de pattes.
Il n'a qu'une tête et un corps et une queue.
Il regarde la caméra.
On dirait qu'il n'a pas de pattes.
Personne ne peut voir la photo, Rudy. Bon, bah, je crois que c'était tout pour le podcast de cette semaine.
Voilà, donc n'hésitez pas, toujours encore une fois, à poser vos questions donc sur le forum. C'est la rubrique entraînement, donc il y a un topic juste en haut, il y a marqué « Posez vos questions pour le podcast ». Donc okay. Avec Julien, on les sélectionne chaque semaine ensemble. Et puis on rigole bien en y répondant, donc n'hésitez pas. Puis voilà. Julien, à toi de conclure.
Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, les amis.
Ah, putain, les amis étaient un peu efféminés. Putain, merde. Salut à tous et bonne écoute sur le site. Salut.